De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Vous le savez, chaque vendredi en ce 24 juin, je suis ravi de vous retrouver. Au menu de ce De quoi je me mêle, un spécial vacances pendant presque une heure. Tout à l'heure, on va évoquer un appareil qui s'est ringardisé, qui est indispensable pour certains, qui est devenu gadget pour les autres. C'est l'appareil photo. Aujourd'hui, comment choisir son appareil photo si on s'intéresse un petit peu plus à la photo qu'un simple smartphone ? Adrien Branco, notre spécialiste à 01net.com, nous donnera tous ses conseils pour bien choisir son appareil avec des références qu'il nous conseillera. Et puis pour rester dans le monde des vacances avec Victor Jakimovic, qui ne viendra pas en maillot, je tiens quand même à avertir tous ces fans qui s'attendaient peut-être à le voir en maillot, on s'intéressera à toutes les manières qu'il y a pour protéger son téléphone des éclaboussures ou même des plongées volontaires ou involontaires. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de De quoi je me mêle qui vous attend, soyez les bienvenus.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.
Et ce De quoi je me mêle commence bien sûr avec le club de la presse IT. Jean-Marie Portal est là, bonjour Jean-Marie.
Bonjour François.
Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. On va s'intéresser dans quelques instants avec Jean-Marie aux applis qu'il faut absolument emporter dans ses bagages.
Oui.
Parce que vous mettez des applis dans les valises, vous. Ouais, comme ça.
Ouais. Je sais pas comment vous faites. Après, tout dépend ce que vous voulez faire de vos vacances.
Ah. On va voir ça dans un instant. Et puis, on est ravis d'accueillir cette semaine Jean-Sébastien Zanqui.
Bonjour François, bonjour à tous.
Jean-Sébastien Zanqui qui remplace Christophe Joly cette semaine. On salue d'ailleurs Christophe qui nous écoute, je le sais bien. Et Jean-Sébastien qui, vous le savez, est journaliste à 01net.com. Jean-Sébastien, on va commencer avec toi. Et oui. L'actu qu'on a pu lire cette semaine sur 01net, on va revenir encore une fois sur toutes ces rumeurs concernant l'iPhone 7. Ça y est, ça se rapproche. C'est dans quelques semaines que le nouveau téléphone d'Apple va sortir, avec des annonces un peu en demi-teinte.
Oui, alors effectivement, il y a toujours cette histoire de prise jack. Voilà, alors ça, c'est la rumeur qui fait brousser le web depuis quelques mois maintenant.
Salut, c'est prise jack. Pardon, excusez-moi.
Cette prise jack, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'elle est remplacée par Lightning? Ça fait quelques mois qu'on disait oui, c'est sûr. Quelques rumeurs sont venues en provenance de Chine la semaine dernière nous disant ah ben non, en fait, on a vu les composants de l'iPhone 7.
Il y a toujours la prise jack.
Et en fait, a priori, voilà, le Wall Street Journal a tranché. C'est-à-dire, le Wall Street Journal, c'est un peu le service de presse d'Apple, hein, on va dire, parce qu'ils ont souvent des infos en direct depuis Apple. Et eux affirment qu'effectivement, la prise jack sera absolument absente du prochain iPhone. Donc, tout se passera par le port Lightning, c'est-à-dire la recharge et le signal audio. Donc, ça implique qu'effectivement, il faut changer de casque ou alors utiliser un adaptateur qui sera a priori livré dans la boîte. Donc, ce sera un truc un petit peu moche qu'on rajoute à sa prise jack. Et sur lequel on branche, enfin la prise Lightning, et sur lequel on branche sa prise jack du casque.
Voir un dédoubleur si on veut recharger et écouter de la musique en même temps.
Exactement. Voilà, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut écouter la musique via la prise jack et puis recharger par le Lightning. Ben on n'aura pas de prise Lightning sur l'iPhone, hein, je vous le dis tout de suite.
Hein. Ah non, ça c'est sûr.
Ça c'est certain.
Ça, hein. C'est sûr.
Ça, on peut mettre beaucoup d'argent si vous voulez.
On peut pas avoir une prise USB aussi.
Voilà, une prise USB. C'est ça. Et une prise Ethernet.
Ouais. Oui.
Ça serait bien,
oui,
ça.
Pour le réseau. Ouais,
enfin, cela dit, parallèle, hein, sinon, faut
on plaisante. On plaisante, mais on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à écouter la musique via le Bluetooth. Donc voilà. C'est vrai que ça.
Alors, effectivement, c'est... Apple, fidèle à elle-même, Apple avait enlevé le lecteur de disquette de l'iMac, avait enlevé le lecteur de CD des MacBook Air. Là, ils enlèvent la prise jack. A priori, c'est fait pour gagner de l'épaisseur, donc en finesse. Donc, le prochain iPhone pourrait faire 1 mm de moins que l'actuel, donc c'est pas non plus incroyable, mais
il sera vraiment pliable celui-là.
Oui, mais involontairement.
c'est ça.
Mais en tout cas aussi, il y a une autre info, c'est que Apple devrait, avec ce nouvel iPhone, garder en fait un peu le même design que l'iPhone 6 et 6S actuel. C'est-à-dire que il y a de grosses rumeurs sur ça. Apple changerait en fait le cycle de renouvellement de ces iPhones. C'est-à-dire maintenant, on a un nouveau design tous les 2 ans avec la série classique et la série S. Et là, ça serait tous les 3 ans désormais. Et donc les vraies nouveautés seraient pour l'année prochaine, voilà, avec ce nouvel iPhone qui sortirait.
C'est-à-dire que l'iPhone Wahoo, ce serait pas l'iPhone, voilà, qui sortirait en septembre.
Il aurait à peu près le même design que l'iPhone 6S.
Alors
actuel.
Il aurait sans doute des nouvelles fonctionnalités. Hein.
Voilà, ça, voilà, ça n'empêche pas effectivement d'avoir de nouvelles fonctionnalités.
Mais l'iPhone tant attendu, qui nous fait rêver, etc., ça serait pour l'année prochaine.
Voilà, et là ça commence à devenir intéressant parce qu'effectivement il aurait un écran OLED avec ce système que beaucoup espèrent. Il y a plein d'artistes qui ont fait des espèces de prévisualisation de ce modèle qui n'aurait qu'un écran en fait en façade, sur toute la façade, et avec le bouton d'accueil et le lecteur d'empreintes digitales qui serait intégré directement à l'écran. On sait qu'Apple a déposé des brevets là-dessus d'ailleurs, donc ça serait vraiment un iPhone qui serait absolument tout en vert, le dos serait en vert aussi, et là a priori ça serait un iPhone qui marquerait d'ailleurs les 10 ans du smartphone, puisque en 2017 ça fera 10 ans que l'iPhone a été présenté.
Et oui, puisque c'était en 2007 que Steve Jobs avait fait cette mémorable keynote où, oui, il expliquait, voilà, un iPod, phone, c'est un navigateur, ça, internet, et là boum, il sort son iPhone. C'était quand même un sacré moment, hein, voilà. Et bon, Jean-Marie,
oui,
vous y croyez-vous à ce changement de cycle de l'iPhone, et que finalement cet iPhone qui sortirait là en septembre serait voilà, une évolution du 6,
oui,
et du 6S?
Pourquoi pas, on peut s'attendre à tout de la part d'Apple. C'est vrai que les 10 ans, c'est une date un peu symbolique, donc peut-être qu'ils veulent marquer ça d'une pierre de coup. Mais oui, bon, les rumeurs, de toute façon, les rumeurs concernant Apple, elles vont toujours bon train. Donc entre ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui se passera demain, Lightning, pas Lightning. Non, parce qu'on peut supprimer tous les boutons à ce train-là.
Mais c'est vrai que depuis quelques années, malgré tout, plus la date de sortie d'un nouvel iPhone sort, plus on sait de choses en amont.
Oui, hein. Oui,
c'est,
oui,
pour ça qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
Non, clairement, c'est vrai que le premier modèle, on savait, Apple arrivait encore à garder les secrets. Là, c'est de moins en moins facile pour Apple de le faire. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne de fabrication, donc il y a d'autres en plus de possibilités de fuite.
Voilà, ça c'était concernant l'iPhone. On va enchaîner avec Google. Google qui aimerait bien jouer au docteur.
Oui, il aimerait bien jouer au docteur, le petit coquin. Mais en fait, c'est
si
vraiment...
Si Google un jour vous dit de vous déshabiller devant votre... Ordi, je pense ne le faites pas.
C'est du spam, sûrement.
C'est du spam.
Mais en fait, on a tous cherché dans Google une fois, on avait mal à un bras, mal à la tête, chercher le symptôme. Et on est tous tombés sur le forum, souvent Doctissimo ou autre, qui dit on tombe sur le forum où on a un cancer, où on va faire un AVC dans la minute. C'est pas très rassurant en général. Donc en fait, Google, pour pallier ce type de contenu, s'est associé avec des instituts médicaux américains, dont la faculté quand même de Harvard, c'est pas rien, pour proposer aux internautes justement des résultats de recherche enfin pertinents. C'est-à-dire, si on va taper dans Google « j'ai mal sur le côté gauche de la tête », qu'est-ce que ça signifie ? On aura une fiche assez didactique et scientifique, bien faite, pour justement rassurer la personne, lui dire « ça peut être ça, ça peut être ça, il faut aller consulter. »
Ça peut être un AVC.
Alors, ça peut être un AVC, pourquoi pas.
Il vous reste 3 minutes pour réagir.
Voilà. Dépêchez-vous.
Non, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir là du contenu de qualité sur les recherches médicales, et de pas affoler aussi les gens qui se retrouvent face à des gens qui sont dans les forums et qui disent un peu tout et n'importe quoi.
Voilà. Et bientôt, une nouvelle adresse mail sera disponible via Google, c'est gmail.com.
Très bonne.
Oui,
très, très bonne.
J'hésitais, franchement.
Très, très bonne.
Je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut la faire ou pas ? On l'a faite. On enchaîne maintenant avec Tesla. Alors là, c'est étonnant, cette histoire.
Ouais.
Vous avez une voiture électrique, donc une Tesla, et vous vous retrouvez en pleine inondation. Pas de soucis, les gars. Comme James Bond, vous allez vous en sortir.
Tout à fait. C'est un internaute qui a filmé ça. Donc il possède une Tesla Model S. On le voit rentrer dans un tunnel où toutes les voitures sont arrêtées parce que le tunnel est complètement inondé. Et lui s'enfonce dans l'eau jusqu'au pare-brise.
Cool.
Voilà, l'eau arrive jusqu'au pare-brise, donc tout le capot est sous l'eau. Et il continue. Il continue tranquillement. La voiture avance. On voit la caméra intérieure qui filme de l'eau partout.
Oui, on voit des poissons passer.
Il avance sans problème. Et on voit que finalement, il s'en sort. Et il sort du tunnel sans aucun souci, tandis que toutes les voitures sont à l'arrêt. Donc il est très content quand il sort du tunnel, on le voit faire un peu le malin. Et c'est marrant parce que la vidéo du coup a été très virale. Et Elon Musk s'est fendu d'un, d'un tweet pour dire bah oui, effectivement, alors je le conseille pas, mais toute la partie bloc moteur et batterie est en fait étanche sur la Tesla. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, assez risqué péril hein, si jamais elle se noie, la garantie ne va pas couvrir ça hein. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement. Et ce qui est intéressant en plus dans l'histoire, c'est que bah il y avait plus d'un mètre d'eau, la voiture flottait à moitié et c'est les roues qui ont fait les hélices propulseurs quoi.
C'est ça.
Donc c'est complètement fou et il y a les liens qui ont été faits avec la célèbre voiture de James Bond qui allait sous l'eau.
Ah là là. Et quel bonheur cette voiture.
Ouais, le clin d'œil est marrant parce que Elon Musk est fan de cette voiture et il en avait acheté un exemplaire aux enchères, donc en fait il possède cette voiture là et il y a même un easter egg sur le système d'exploitation de la Tesla pour changer le logo de sa voiture par une voiture qui y ressemble, donc c'est voilà, c'est un espèce de double clin d'œil à double sens sur cette fonctionnalité cachée de la Tesla qu'on ne connaissait pas.
Et oui, rappelons qu'une voiture normale à moteur thermique, quand le moteur se noie, c'est fini.
Voilà, il y a des entrées d'air, il y a des sorties d'échappement.
Cet été, si vous avez une Tesla et que vous êtes au bord de la mer, vous pouvez partir en croisière avec, rejoindre l'Angleterre par exemple.
Attention, l'Angleterre.
Avec la Tesla.
L'Angleterre, c'est un peu chaud. J'espère que vous avez votre passeport, parce que là, c'est fini hein, maintenant la fiesta de la carte d'identité. Hein. Passeport bientôt pour l'Angleterre. Non, mais en revanche, vous pouvez faire Marseille-La Corse. Là, ça marche.
Oui, les Corses sont quand même
plus raisonnables. On enchaîne maintenant avec Microsoft qui visiblement s'est dit tiens, il faut vraiment qu'on fasse avancer l'humanité. On a de grands chantiers, donc ils travaillent maintenant contre les moustiques.
Oui, ils travaillent contre les moustiques effectivement. En fait, ils ont un projet pour prévenir les épidémies qui sont propagées par les moustiques. Et en fait, ils utilisent une intelligence artificielle qu'ils ont couplée à un piège qui est installé dans la forêt. Et ça permet tout simplement à ce piège de reconnaître quels sont les insectes qu'il attrape, comment, tout simplement avec le battement des ailes. C'est par exemple chaque insecte a un battement d'ailes particulier, donc il a une sorte de signature et eux savent exactement quels sont les insectes qui volent à ce moment-là, qui pullulent pendant telle ou telle condition météo. Donc ça leur permet par exemple de prévenir la propagation de Zika. Donc
il est transmis par le moustique tigre.
Par le moustique, exactement. Et donc du coup ça permet d'analyser les flux d'insectes dans les forêts avant qu'ils arrivent dans les villes.
D'accord.
Donc ça permet de prévenir les populations, de pourquoi pas déployer des traitements, des vaccins s'ils existent, avant que le nuage d'insectes arrive. Et tout ça grâce donc à l'intelligence artificielle. Ce ne sont plus des humains qui font ça, mais un système de processeurs intégrés dans ces pièges qui transmettent ensuite par une puce data ces infos là au centre de données de Microsoft.
Pas mal. Ça tourne sous Windows 10 ou...
Non, je pense que ça va planter sinon.
Non, parce qu'il ne faut pas que ça... J'ai rien dit.
Vous n'êtes pas beaux, hein, tous les deux. Non, franchement, là c'est pas sympa.
C'est du Linux.
Non, mais en plus, sous Windows 10, ne plante pratiquement jamais. Non, 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 c'est vraiment bien Windows 10.
Non, ça fonctionne.
Non, sérieusement.
Ouais, sérieusement. Maintenant, ils ont un super écran quand ça plante.
Et on enchaîne avec une application pour spoiler... vos potes concernant les séries.
Ouais, c'est ça. Alors, on est en plein de saison de Game of Thrones, la saison 6. On voit sur Twitter, sur Facebook, pour ceux qui regardent pas les épisodes en direct après la diffusion US, des tonnes de spoils. On essaye de passer à travers, c'est pas évident.
Mais tu vois, lui, il est mort. Ah non!
C'est ça, c'est toujours ça. Ou même, il suffit que les gens disent, oh là là, quel épisode de fou, même si on sait pas ce qui s'est passé.
Voilà, c'est ça.
Du coup, quand on regarde l'épisode, on s'attend à.
Oui, il y a quelque chose d'horrible.
En fait,
il y a un cheval qui meurt, tout simplement.
C'est horrible, un cheval qui meurt.
C'est horrible, c'est vrai que c'est horrible.
Mais alors, il y a des petits malins qui ont eu l'idée de faire un service qui est payant, c'est-à-dire, en fait, on va envoyer à ses amis des SMS avec des spoils de Game of Thrones. Alors ça va être en plus sous forme d'image, donc on a l'image de la scène en question, ce qui se passe dans la scène, et ça coûte 99 centimes par envoi. Et c'est pour si vous en avez marre de pas pouvoir discuter avec votre meilleur pote parce qu'il attend la fin de la saison pour la regarder en entier. Là, vous pouvez le spoiler et donc ça va peut-être lui donner envie de regarder Game of Thrones.
Ouais.
Là,
ça passe un niveau. Surtout, ça a pu être votre meilleur pote.
Aussi, parce que là, c'est plus la peine de lui parler, quoi.
Non, mais c'est horrible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de tels rebondissements dans les séries que lorsque vous apprenez que l'un des héros meurt à l'épisode 4 de la saison 3, c'est des boules, quoi.
Vaut mieux la regarder en direct maintenant parce que pour éviter tout ça, même il y a des papiers sur les sites web, dans la presse, qui
tout ça, c'est à cause de Netflix.
Ouais, oui, c'est toujours.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien
Merci
Zanqui.
Merci beaucoup, François.
Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à 01net.com. Après le .com, le mag. Jean-Marie Portal,
oui.
Bientôt les vacances.
Ouais, bientôt les vacances. Je ne sais pas quel type de vacances vous préparez, ça va être quoi?
Bon,
ça
moi, c'est très simple. C'est le soleil, c'est la Corse, donc ça va, c'est pas trop compliqué.
Ah oui, c'est compliqué. Le bon vivant, donc.
Ouais.
Parce que nous, on a identifié 4 profils de vacanciers, le bon vivant, le sportif, le cultivé, alors celui qui aime bien faire les musées, et puis
ouais.
Le baroudeur. Alors ça, c'est même plus le sportif, c'est celui qui veut partir très loin. Et en fonction de vos envies, de vos aspirations, bah, on vous a fait une petite sélection d'applis. On va pas passer les 24 en revue, hein, sinon...
voilà.
Sinon,
un, ça servira à rien d'acheter le magazine.
Ça va être le 01net Xit.
Le 01net Xit. Alors.
Par contre, si... Alors, bon vivant, une petite pause douillette, ça vous dit, vous avez peut-être pas envie de... Vous allez en Corse, vous ?
Oui.
En avion ?
Alors, je vais, oui, c'est plus pratique, oui.
Ouais, parce qu'en voiture...
C'est un peu long.
Mais quand bien même, vous aimeriez y aller en voiture, vous n'avez peut-être pas envie de tracer pendant des heures la route, et puis envie de faire une petite pause sur le chemin.
Oui, pour découvrir
les
belles régions.
Pour découvrir de belles régions. Alors, le problème, c'est où dormir. Alors, bien sûr, il y a la solution de l'hôtel, sauf que parfois, ça coûte un petit peu cher. Moi, je vous propose plutôt du night swapping. Alors, qu'est-ce que c'est que
le night swapping?
Eh bien, ce sont des particuliers qui se proposent de vous héberger chez eux. Ça coûte pas très cher, ça va vous coûter de 7 à 49 euros la nuit.
Ce sont d'anciens détenus qui sortent de prison.
Et ça peut,
chez eux.
Ça peut même ne rien vous coûter si vous aussi vous vous inscrivez sur cette application et que vous proposez aussi d'héberger des gens. Donc c'est un système un petit peu d'échange. Je t'héberge pour une nuit.
D'accord.
Et toi, tu m'héberges aussi pour une nuit.
Pourquoi
pas. Tout bien tout honneur. Hein.
Oui, mais j'imagine. Attendez, il n'y a pas de souci.
Voilà. Bon, une fois arrivé en Corse, on cherche sa petite plage, sa petite crique, son petit rayon de soleil, son sable, etc. Et,
sa petite paillotte.
Voilà. Et là, je vous propose un incontournable plage et crique de France. Alors avec ça, vous allez repérer tout de suite les petites plages qui vont bien, s'il y a des toilettes, si elles sont surveillées, si vous allez pouvoir crapahuter dessus en étant tranquille. Au total, 1600 stations balnéaires sont quand même référencées, donc de la baie des milliardaires à Cap d'Antibes, à la crique de la Vierge, à Crozon, il y a de quoi faire. Et tout ça avec Carto et donc Carto
Profi, hein.
C'est très très pratique.
Et alors disponible, on le voit sur Android et iOS.
Oui, alors toutes ces applis sont toutes disponibles gratuitement, mis à part peut-être quelques... Non.
Il va falloir que Jean-Sébastien la télécharge gratuite. Aussi, parce que je sais qu'il il aime bien les plages. Donc,
j'adore ça.
Voilà, c'est pour ça.
Alors, bon, allez, le sportif maintenant. Le sportif bord de mer, toujours. Vous aimez faire du surf. Vous aimez les... Ainsi, Sport & Son. Alors là, je vous propose plutôt surf.
Ils sont là, les sportifs. Ils sont de l'autre côté du...
Ils sont derrière,
les
sportifs.
Ils sont du côté de la régie, les sportifs.
On les voit,
Ouais, c'est sûr.
Alors là, Surf Factor. Et avec ça, si vous êtes adepte des sports de la glisse, je vous propose de repérer tous les spots qui vont bien. Mais surtout, de voir la température de l'eau, de vérifier la houle, le soleil. Enfin bref, tout pour réunir les bonnes conditions pour faire votre sport de glisse et savoir où le pratiquer. Si vous êtes plutôt adepte des randonnées, je vous conseille là, pour le coup, View Rangers GPS. Alors ça, c'est une appli très très pratique parce que vous allez pouvoir avoir des cartes pour vos randonnées, même si vous n'avez pas de réseau. Donc vous les téléchargez avant et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous perdre.
Pas mal.
Bon,
une petite culture quand même.
Ah, une petite culture.
Quand de se cultiver. Oui.
Alors culture, continuons sur les cartes. Un incontournable, c'est City Maps to Go. Vous partez à l'étranger, en Angleterre, loin de tout réseau,
loin de l'Europe, au fond du monde.
Voilà, donc on sait plus trop comment ça fonctionne, le roaming en Angleterre, l'Internet, on ne sait pas si c'est les mêmes normes.
Exactement.
Alors n'oubliez pas votre passeport.
Si le Wi-Fi existe là-bas ?
Est-ce que le Wi-Fi existe là-bas ? C'est une île, il faut le rappeler.
Alors, on plaisante bien évidemment avec le Brexit, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va pleurer, donc c'est pour ça.
Oui, c'est ça, non, c'est pas drôle dans l'absolu.
Non, dans l'absolu,
moi, je suis pour le Remain.
Le Remain, et oui.
Remain.
Il faudra attendre un petit peu parce que c'est pas passé. Hein.
Voilà. Bon, alors ceci dit, vous pouvez toujours aller faire un petit tour en Écosse ou en Irlande aussi. Ça doit être très rigolo en ce moment. Donc, loin du réseau, City Maps to Go. Vous pouvez télécharger comme ça jusqu'à 5 cartes gratuites sur votre smartphone. Vous les téléchargez avant et vu que votre GPS, même s'il n'y a pas de réseau, il fonctionne. Vous allez pouvoir vous repérer même les lieux remarquables, les musées, les coins à visiter, les restaurants, les bars, etc. Ça, c'est extrêmement pratique pour économiser anonymiser sa data lorsqu'on est à l'étranger. Une toute dernière pour le pour baroudeur. Alors là, c'est un nouveau comparateur de vol. Enfin, c'est un comparateur de vol. Alors pour le coup, celui-là, il est que sur iOS. On connaît les kayaks, les etc. Ben là, je vous propose HelloTrip, qui sélectionne les vols en fonction de votre budget. Donc vous lui donnez vos dates, etc. Ah bah. Et HelloTrip sélectionne vraiment ça. Ah si, une petite dernière, celle-là j'adore, c'est si vous voyagez en train jusqu'à la dernière minute, pouvoir changer de billet. Ça, c'est Save a Train qui fait ça. Ça fonctionne sur Android et iOS. Alors, seul truc, c'est que quand vous réservez avec l'appli, il faut juste préciser que vous pouvez. Et il vous alerte, l'application vous alerte si elle trouve un billet moins cher D'accord. que celui que vous avez pris ah oui. et vous pouvez l'échanger. Alors, seul truc parfois, c'est qu'il ne va pas forcément vous proposer exactement le même train, le même horaire, etc. Il faut accepter de décaler un petit peu dans la journée. Mais ça, c'est extrêmement pratique pour prendre son billet et puis quand même être alerté s'il y a un billet moins cher qui se présente avant le départ.
Merci beaucoup, Jean-Marie.
Merci, François.
C'est... Pardon, j'envoie tout bourdingué là. C'est dans le Zéronet Mag qui est ici. Voilà, si vous êtes avec nous en vidéo, je vous montre la pochette actuellement. Dans les kiosques. Jean-Marie, merci.
Merci François.
Jean-Sébastien, merci. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. La suite de Quoi je me mêle avec Adrien Banco dans un instant. Voilà, décrier ou aduler, l'appareil photo existe toujours, hein, même si ses parts de marché s'effondrent. Si on est un fan de photo, on ne peut pas passer à côté. Comment choisir son appareil photo en 2016? On va en parler avec Adrien. Et puis juste après, ce sera Victor Jakimovic qui met les pieds dans l'eau cette semaine. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Avec les beaux jours qui arrivent, on va vouloir patauger, peut-être avec son smartphone. Victor Jakimovic, tout à l'heure, nous donnera quelques petits conseils, justement, pour protéger son smartphone. Et d'ailleurs, d'autres appareils high-tech, ce sera dans un petit quart d'heure. Mais puisqu'on est pratiquement dans les vacances, je vous propose maintenant de parler d'appareils photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'appareil photo, et c'est un peu compliqué parce que la qualité des appareils photo qu'il y a dans les smartphones évolue d'année en année, même si on s'est rendu compte que ces derniers temps, ça stagne. Malgré tout, quand on aime faire de très très belles photos, il n'y a pas photo justement. Il faut s'offrir un beau petit appareil. Alors après, là, on rentre dans des gammes de produits complètement folles. Il y a énormément de choix, des prix qui explosent. On va en parler avec notre spécialiste ici à la rédaction de Zéronet.com. C'est Adrien Banco qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Salut Adrien.
Bonjour.
Adrien. C'est vrai que c'est peut-être le moment d'acheter un appareil photo avec les beaux jours qui arrivent, qui sont là. Difficile de s'y retrouver parce que c'est vrai que, je le disais, avec la concurrence des smartphones...
Il y a une hyper-fragmentation.
C'est ça.
Il y a une hyper-fragmentation du marché, mais en même temps, il y a un effet bénéfique, c'est que les appareils photo n'ont jamais été aussi bons. Jamais. La progression, il y a énormément de compétition. Le premier point que je voulais, sur lequel je voulais insister, c'est attention, n'ayez pas peur des prix, c'est normal. Vous avez tous arrêté d'acheter des compacts à 200 €. Ouais, parce que vous avez tous un smartphone qui fait des photos tout à fait décentes, voire très bien si c'est un iPhone et qu'on sort. Donc du coup, les constructeurs photos sont repartis vers leurs premiers amours, la qualité d'image et la qualité. Ça se paye.
Alors, une question toute bête. Quelle est la différence entre, la différence de qualité entre un smartphone haut de gamme, par exemple un iPhone ou un Samsung, etc., et un appareil photo, par exemple, parmi ta sélection, il y a un compact ultra zoom.
Oui. Qualité d'image pure.
Oui.
Alors, qualité d'image pure sur une impression 10-15, comme ça, on ne verra pas grand-chose. Mais un appareil photo... c'est plus que la somme des parties. Avec ton iPhone, tu ne vas pas pouvoir zoomer. Ou alors, tu vas faire un zoom numérique. Donc, tu es bloqué avec ton 29 mm. Voilà, tu as un grand angle, c'est tout. Pour le portrait, il n'y a pas vraiment de latitude. Pour l'oiseau qui est perché dans l'arbre, non plus. Ce que va permettre un compact, un bridge, quelque chose d'équipé avec un vrai zoom, il va t'apporter un service. Et finalement, la plupart des appareils photo que je t'ai mis là dans la liste, ils vont t'apporter d'autres services. Et parmi ces services, il peut y avoir la vitesse d'autofocus, la rafale, il peut y avoir la vidéo, la prise en main, il peut y avoir l'étanchéité. C'est tout un tas de services autour. Après, quand tu grandis les tirages ou quand tu veux, un arrière-plan flou, alors là, tu vas pouvoir faire des photos que tu ne pourras jamais.
Oui.
Pour l'instant, faire avec un smartphone.
Parce que c'est vrai que les smartphones, et après on va rentrer dans le détail de ta sélection, mais aujourd'hui un smartphone n'a pas de zoom optique. Ou alors il y a eu des essais, mais qui
ont... Il y en a, tous les foirages.
Voilà, plutôt malheureux. Donc oui. C'est vrai que c'est le gros avantage d'un appareil photo, c'est qu'on va pouvoir zoomer dans l'image sans perdre en pixels et conserver en fait une bonne qualité, c'est ça ?
Ou alors, pour un certain autre type d'appareil, par exemple, je pense au Compact Expert à focale fixe, on viendra dessus après, tu vas pouvoir obtenir un cachet d'image, un cachet, vraiment. Si je te les mets les deux côte à côte, comme ça, tu fais « Ah oui, oui, c'est un... » Et puis, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose au niveau des couleurs, il va se passer quelque chose au niveau de l'impact sur l'œil, du piqué de l'optique. Et la photo n'est plus, l'appareil photo n'est plus un appareil banal, c'est redevenu un appareil passion.
Voilà, et pour créer. Et
tout à fait.
Pour exprimer son art. On va commencer donc par ta sélection de compact ultra zoom. Alors, on va faire crescendo, hein, ouais, c'est
petit,
ça.
Petit point technique, à part sur une ou deux catégories, j'ai mis deux appareils parce qu'il faut aller vite et il faut faire une sélection par rapport aux appareils que j'ai bien appréciés l'année qui vient de s'écouler.
Que tu as testé.
Alors, compact ultra zoom, j'ai mis deux références. La première qui est la moins chère, c'est le Sony HX80, hein, qui est un compact ultra zoom x30. Si je l'avais en main, je te verrais qu'il est assez petit. On revient 5 ans en arrière, ça serait un compact zoom x4. Là, il fait x30. Il y a un viseur électronique d'intégré. Il a visé au Full HD. Il y a une stabilisation du capteur. Enfin, il y a quasiment tout ce qu'on veut. Entre l'appareil photo, le smartphone et le bridge, tout y est. La qualité d'image est bonne. En 28 mm, de temps en temps, tu verras en intérieur. Bah, des fois, le smartphone, il a une optique plus lumineuse, donc il va être plus performant. Mais avec un zoom x30, on peut faire des plans serrés, on peut faire beaucoup de choses. Et je crois qu'il est aux alentours de 400€ des brouettes. Et c'est vraiment un produit incroyablement
complet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut un smartphone qui tienne la route, on n'a rien en dessous de 400€.
Tu veux dire un appareil photo ?
Pardon, un appareil photo ?
Ah oui. Oui, ouais. à moins, oui et non, parce qu'il y a des déstockages. Oui et non, parce que il y a des photographes qui font des trucs géniaux avec des appareils de merde. Donc, non, mais il faut le rappeler, c'est le photographe.
Après, c'est le talent.
Les déstockages permettent des fois de trouver des trucs bien, mais globalement, dans les lignées des produits neufs, oui, c'est 400-450€.
Juste une question qui me vient comme ça à l'esprit, en ce moment, c'est les soldes. Mm-hmm. Donc, on va se retrouver peut-être avec des appareils déstockés qui ont un ou deux ans. Est-ce que la technologie en matière d'appareils photo évolue aussi vite que dans d'autres domaines ? C'est-à-dire que si je prends un appareil photo de 2014, par exemple, ou 2015, est-ce que je vais vraiment avoir une différence par rapport à un dernier modèle ?
Et si tu veux, il y a le test classique de « je fais un paysage ». Si tu fais un paysage avec un appareil photo, notamment les Fuji d'il y a 10 ans, tu l'imprimes, tu vois, les couleurs sont déjà très très belles et tout ça. C'est plus le service. C'est le service et en basse lumière. Est-ce qu'il a une stabilisation 5 axes qui va lui permettre de bien baisser la vitesse ? Est-ce qu'il va avoir l'écran orientable ? Est-ce qu'il va avoir le petit viseur ?
C'est tous ces petits trucs qui ont été inventés,
Et là, on est clairement 2015, on verra. 2015, ça a été l'arrivée du viseur électronique de qualité suffisante et pas trop chère. Voilà, on attend de voir le shift 2016.
Et puis le Wi-Fi aussi, hein. Aujourd'hui c'est devenu indispensable. Pour ou contre le Wi-Fi sur un appareil photo ?
Pour ou contre, qui peut le plus, peut le moins, donc si ça aide des gens pour certains types de prises de vue. En fait, il y a aussi ça, il y a que... généralement, on dit les profs. Là, on critique les profs, mais un prof, un prof de sport n'a rien à voir avec un prof de littérature en prépa. Un compact expert n'a rien à voir avec un compact étanche. Il y a une grande typologie de photographes et une grande différence. Donc, si tu l'as, tant mieux. Perso, moi j'utilise peu.
Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir... moi je sais que j'ai pu m'amuser avec un Pana qui était Wi-Fi. Pratique de retrouver ses photos sur le smartphone, de pouvoir les échanger sur les réseaux sociaux, etc. Ça nous évite de les transférer sur le PC et après de pouvoir les partager.
C'est top pour le partage. Ouais. Je suis un flemmard de l'Instagram et de tous ces trucs-là. Je suis le champion pour faire des photos que personne ne voit.
On enchaîne avec le Pana, justement.
Alors, le Panasonic TZ100, on reste... C'est du petit ultra zoom expert. Alors je m'explique, il est plus cher que le HX80 et pourtant il n'a qu'un zoom x10. Oui. Ça paraît bizarre. Le zoom ne fait pas tout et surtout, plus un zoom est puissant, plus il y a de compromis optiques. Et là, la nouveauté, parce que c'est un nouvel appareil, le TZ100, c'est à la fois un compact ultra zoom mélangé avec un compact expert. Il a un grand capteur 1 pouce. 1 pouce, c'est quasiment 6 fois plus grand qu'un capteur de compact. Donc on va vraiment, si on zoome un peu, pouvoir obtenir quelques jolis arrière-plans flous sur des portraits. On va pouvoir monter assez haut dans les hautes sensibilités. On va avoir une quantité de détails. Les détails vont être un peu plus ressortir de l'image. Et puis c'est un Pana. Donc vidéo 4K, stabilisation du capteur. Enfin, c'est un joli petit bijou. J'aurais préféré qu'il fasse un zoom un peu moins puissant. Ils ont fait x10 parce que le premier TZ1 était... zoom x10, mais oui, il est techniquement supérior.
TZ100, on est à plus de 400€ quand même.
Oh, on est à 600.
Oui, c'est ça.
Ouais, on est à 600.
Allez, on enchaîne avec les compacts renforcés.
Ouais, alors, il y a une marque qui domine la plupart des autres marques, c'est Olympus, c'est une espèce d'ADN. Pour ceux qui se rappellent, il y avait la gamme des Mew Tough, Mew a disparu, ça reste des Tough, ils restent solides. Alors, le TG870, c'est pas leur produit d'appel, c'est leur produit vraiment milieu de gamme. Je l'aime beaucoup parce qu'il a du cran, il avait du cran cet appareil. Normalement, un compact renforcé, c'est un compact compact, monobloc, et Olympus a eu le cran de faire un écran orientable. On est quand même dans un usage sport, oui. Jeune, alors là je passe pour un vieux con, mais vraiment jeune, donc on se prend quand même en selfie, on aime faire des photos de soi, et c'est vraiment top de pouvoir ainsi tourner l'écran. Voilà. Alors comme limite par rapport à son grand frère, donc son grand frère qui est l'Olympus TG4, oui ça fait deux fois que je cite des Olympus, mais comme je l'ai dit,
oui, ils ont vraiment une,
ils ont une domination là-dessus. L'Olympus TG4, lui, je ne sais plus s'il a l'écran orientable dans mon souvenir, j'en vois beaucoup, passer beaucoup de références, mais il a une optique qui en grand angle est très lumineuse, F2. Mine de rien, on shoot souvent en grand angle avec ce genre d'appareil, notamment sous l'eau. Faut savoir que tous les Olympus, pour la plupart des appareils étanches, ont une balance des blancs automatique faite pour prendre des photos qui ont l'air à peu près naturelles sous l'eau, et que ces deux machins là, ils résistent à des... Alors, au lecteur, je dis oui, je jette bien les appareils par terre de manière assez violente. Je donne même des coups de poing et des coups de pied dessus pour vérifier leur résistance. Il m'arrive d'ailleurs de les abîmer, mais globalement, ils tiennent toujours le coup. Donc, ça reste du solide.
On enchaîne avec les Bridge. Alors là, on monte en gamme, bien sûr.
Alors, on monte, oui, on monte doucement en gamme. Là, j'ai triché un peu. Donc là, j'ai mis trois références parce qu'il y a trois philosophies différentes. Le premier, c'est le champion du zoom. Je sais même plus si on est à zoom fois 80, en tout cas, c'est un 2000 mm. 83, voilà, comme le rappelle la vidéo.
Donc, un zoom 80 fois.
Oui, alors attention.
83 fois.
Oui,
c'est optique.
Oui, c'est un zoom optique de 83. Oui, wow. Nikon la signe un record du monde.
C'est un microscope, en fait.
Alors, non, ne pas confondre. Grossissement et grandissement, c'est un débat optique. Là, on voit bien, si vous voyez la vidéo derrière, vous voyez bien, l'homme met l'appareil photo, ou la dame, hein, les femmes ont le droit de faire des photos, le milieu de la photo étant suffisamment machiste. Vous le mettez sur un trépied, et effectivement, on se passe du réflexe avec le super zoom et tout ça. Est-ce que le piqué d'image est équivalent à un réflexe avec une optique à 14 000 euros ? Non. Est-ce que ça permet de faire des photos que vous auriez jamais pu faire par le passé ? Oui. J'ai notamment des mails de la part de beaucoup d'utilisateurs en ornithologie qui adorent. Voilà. Donc c'est vraiment un appareil nature passion. On le met sur un trépied, on va observer les animaux. Et vraiment, pour, je ne sais plus à combien il est, à 400 ou 500 euros. Vraiment, c'est un très 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 bon rapport.
C'est le P900, hein, c'est ça ?
C'est le Coolpix P900, d'accord, qui est vraiment un très bon produit. Le viseur ne sert à rien. Il y a deux trois bricoles qui vont pas, mais pour la photo nature, c'est top.
Deux autres bridges Panasonic.
Panasonic, de toute façon, c'est le roi des bridges. Hein, c'est le roi. FZ300, petit zoom x24, optique exemplaire, parfaite. Piqué d'image en plein jour, top. Petite faiblesse en basse lumière parce que ça reste un petit capteur, mais avec le FZ300, Panasonic a progressé par rapport à l'ancienne génération. Il est tout temps, il fait de la vidéo 4K, il a le capteur stabilisé, l'optique est en pleine ouverture, elle est parfaite. Juste, effectivement, le P900 va zoomer plus, mais il y a plus de piqué sur le FZ300. Et le FZ1000, sorti maintenant, il y en a un et demi. C'est un peu comme, je vous avais parlé du TZ100, mais c'est le même. Si vous prenez un Compact Expert, vous mettez un capteur de Compact Expert et vous le mettez dans un boîtier bridge avec une optique qui est un zoom x16, donc c'est pas énorme, mais la qualité des images n'a rien à voir. Vous avez un capteur 1 pouce qui prend beaucoup plus de lumière. C'est Panasonic, donc c'est la 4K.
Il y a une grosse différence entre le TZ100 et le TZ1000 parce qu'ils ont tous les deux un capteur 1 pouce finalement. Alors il y en a un qui zoome plus.
Oui, alors il y a une différence. L'optique, avec le TZ100, ils ont été obligés de compresser. Plus il y a de compromis optiques, oui, hein, plus on y a de perte de qualité. L'optique du FZ1000, elle prend sa place, elle est grosse, elle est imposante. Donc Pana a pu se faire plaisir. Il y a beaucoup plus de piqué d'image sur le FZ1000, mais le TZ100, on le met dans la poche.
Compact Expert Zoom. Maintenant.
Ah oui, alors là, je vais bien dissocier. Il y a les Compact Expert qui disposent d'un zoom électrique. Et il y a les Compact Expert à focale fixe. Alors parmi les zooms, bon, il y a une référence hein, absolue, c'est le RX100 Mark IV de Sony, qui est une brute technologique à laquelle je ne peux que mettre 5 étoiles. C'est vrai, des fois, on vous pose un produit. Voilà. Je n'ai pas la passion parce que moi, j'aimerais qu'il soit plus renforcé. Je suis un peu baroudeur. J'aimerais qu'il soit un peu plus gros, avoir une meilleure prise en main. Mais c'est un monstre technologique. Il fait de la 4K. Il fait des vidéos à 1000 images par seconde pour faire des ralentis. Alors, en plus petite définition, mais si vous filmez une abeille ou quoi que ce soit...
À 1000 images par seconde.
Ouais, 960.
C'est impressionnant.
C'est dingue. Il a une super rafale. Le capteur est excellent. Mmh. Est excellent. L'optique, elle est lumineuse. 1.8-2.8. Hein, c'est un 24-70-1.8-2.8 pour les photographes à qui ça parle. Il tient dans la poche. Bon. Par contre, la 4K tue sa batterie à une vitesse ahurissante. Voilà.
Et parce que c'est un petit appareil. Hein,
ah, oui, on oui, le non, voit, mais, là, hein. Alors là, pour le coup, on arrive sur des trucs où les optiques sont tellement bonnes et les capteurs capteur finalement tellement grand que oui, on fait une impression d'un mètre sans souci avec ça.
C'est incroyable. Et puis bon, on se rend compte encore une fois du savoir-faire de Sony hein, en matière de traitement d'image.
Capteur, c'est, voilà. Les capteurs, vous allez les retrouver.
On est bon. Quoi d'autre ?
LX100. Alors optiquement supérieur, c'est le compact expert de Panasonic qui devrait être remplacé. J'ai vu des rumeurs ce matin. C'est beaucoup plus un baroudeur. Il a un corps beaucoup plus solide. Je préfère le piqué d'image de cet appareil parce qu'il y a un cachet qui est fait par son grand capteur. Il a un capteur 4 tiers qui est plus grand et en fait Panasonic n'utilise que le milieu. Il fait de la vidéo 4K et il ne chauffe pas trop. Il a une très bonne optique. Il est très très costaud. Il est un peu plus encombrant fatalement. Mais vraiment, on arrive à obtenir un meilleur bokeh, c'est-à-dire les meilleurs arrière-plans flous. C'est une très 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 belle machine. Il est un peu moins cher que le Sony. Par contre, il est plus encombrant.
Tiens, on va parler de Canon. On n'en a pas encore, encore évoqué
on
cette
pourrait
marque.
Faire un truc de Canon et Nikon qui sont à la peine beaucoup de domaines. Le G5X, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le G5X parce que son viseur, voyez, on ne va pas parler qualité d'image, ils se tiennent. Mais là, j'ai bien aimé le viseur avec ce look réflexe. Mm-hmm. Je le mets à l'œil, je vise et je l'ai quand même juste dans le sac parce qu'il fait 400 ou 500 grammes. Il ne fait pas 1,5 kg comme le réflexe avec une optique haut de gamme.
20 mégapixels, bon.
Ah oui, non, alors là, le LX100 est à 12 et il fait des images formidables. On se fige des mégapixels, c'est fini, ça n'a aucun intérêt. Il ne fait pas de 4K, il a une autonomie un peu faible, mais alors il a une qualité de finition, on peut l'amener partout, quoi. Vraiment l'amener partout, il est très robuste, voilà.
On enchaîne avec les compacts à expert à focale fixe maintenant.
Alors là, je préviens les amateurs, attention, ce sont des appareils un peu particuliers. Focale fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom, donc c'est comme votre smartphone. Donc là, on va vraiment chercher un confort, un style de photographie, et puis après on veut faire des tirages où on veut un cachet d'image, parce que globalement c'est pas si loin que ça des smartphones dans la philosophie, pourtant c'est bien plus cher. Alors il y a le X100T de Fujifilm, qui est un peu mon chouchou, viseur électronique, et je sais pas si vous savez, mais les traitements d'image des constructeurs influent beaucoup sur la qualité des photos JPEG. Je connais beaucoup de professionnels maintenant qui travaillent en Fuji, on ne shoote plus en RAW. Quand on est professionnel et qu'on a du Fuji, on ne shoote pas en RAW.
Oui, parce que la compression est tellement bonne en JPEG qu'on n'a pas besoin, d'accord.
Les JPEG sont parfaits, il y a une colorimétrie, il y a du chien, il y a beaucoup de choses. Ce que j'aime, c'est comme vous voulez voir, le look rétro, le viseur qui peut basculer en viseur optique. On aime le silence, c'est comme un réflexe, mais c'est plus léger qu'un réflexe, il y a un côté déclencheur.
Il n'y a pas du tout de zoom sur ces trucs-là.
Non, c'est un 28 mm f2, donc focal fixe, c'est que vous voyez, il est tout petit. On peut mettre des convertisseurs si vous les zoomez un peu, il y a un adaptateur équivalent 28 ou 50 mm, mais sinon c'est un appareil rétro. Et par contre là, on peut faire de très gros tirages. Et ensuite, il y a un appareil qui est un peu roi au Japon, qui s'appelle le Ricoh GR. Il a une longue histoire dans l'argentique. Et là, il est venu en GR, et la GR2 dans cette version. C'est un 28 mm 2.8 qui a un capteur dépourvu de filtre passe-bas. Et pour ceux qui aiment la street photographie, le beau noir et blanc, je shoote au niveau de la hanche, la photo volée, le reportage de combat, c'est une arme fatale. C'est vraiment un appareil magnifique.
On est à quelle gamme de tarifs là ?
On est à 550 €. Hein. Bon, oui, là, ils ont beaucoup décoté. On trouve son ancienne génération, je crois, à 500, lui peut-être à 650, mais prenez le GR1, c'est déjà très très bien. Et là, vous pouvez faire de très très beaux tirages. Et surtout,
mais c'est vrai que ce n'est pas des appareils photo pour tous les usages, pour, on va dire, le grand public qui veut à la fois faire du zoom, etc. Là, on est vraiment sur un deuxième ou un troisième appareil, c'est ça, non ?
Mais je vous engage, non, pas nécessairement, parce que je dis que quelqu'un qui a un smartphone peut tout à fait aller vers le GR, parce que le langage procède de l'outil. Vous ne faites pas, mine de rien, pas les mêmes photos avec un smartphone qu'avec ce genre d'appareil.
C'est certain.
Parce que le GR a quelque chose que aucun appareil n'a, il a le snap focus. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu fais la mise au point à 1, 3 ou 5 mètres ou l'infini, on appuie, il déclenche. Voilà.
Tout de suite.
Voilà.
D'accord.
Pour ceux qui connaissent l'hyperfocal, pour ceux qui travaillent en photo de rue, qui aiment ce contact, c'est vraiment un appareil formidable.
On enchaîne avec les hybrides pour terminer, avec deux catégories.
Les hybrides familiaux et les pros, experts ou passionnés. Alors, gros coup de cœur pour le Panasonic GX80, qui est un petit monstre. On va directement parler de son défaut. Son autonomie est pas top, voilà.
Alors quand tu dis que c'est pas top, c'est quoi ? On tient
250
quand même...
images.
250 images.
Ouais.
On va mieux avoir une deuxième batterie sous la main.
Mais voilà, ça c'était pour les défauts.
Voilà.
Non, allez, c'est pas vrai. Le viseur électronique est pas top. Voilà, je le trouve pas top. Par contre, pour le reste, c'est une bécane incroyable. Bon, ils ont viré le filtre passe-basse, qui fait que bah, parmi les appareils micro 4 tiers, même par rapport à certains boîtiers pro, il a un super piqué d'image. Donc, ils vont le virer sur tous les prochains Panasonic. Il a enfin un mode noir et blanc valable. Pana était vraiment nul dans le traitement d'image. Là, ils ont un très beau noir et blanc. Il est super compact. Il reçoit toutes les optiques Panasonic Olympus. Il a une 4K de très grande qualité parce que le capteur est stabilisé en photo comme en vidéo. Il se recharge comme un smartphone avec la prise micro USB. Il est compact. Il a un autofocus hyper réactif. C'est un petit bijou.
On enchaîne avec l'Olympus.
L'Olympus, c'est son petit frère. Donc c'est l'OMD UM10 Mark II, sorti un peu avant. Le viseur est meilleur. Le viseur est meilleur. Le look, selon les goûts, il est aussi un peu meilleur.
Ouais, bah c'est un peu vintage. Enfin, ouais, c'est un peu vintage.
Ce que j'apprécie beaucoup, c'est effectivement ces commandes très manuelles où on va accéder rapidement, même pour le grand public. Voilà. Ce côté, je fais la mise au point sur l'écran est top, mais on le retrouve chez Panasonic et tout. C'est un peu le frère ennemi du GX80. Si vous êtes plus sur l'Olympus et que vous préférez le design, lui, il fait le café aussi. Voilà. Mais
différence de prix entre les deux ou pas ?
Non, pas tant que ça.
D'accord.
Pas tant
là, on est à quoi ?
700 euros.
700 euros.
Ouais.
Et on enchaîne avec. Alors là, on s'attaque véritablement à ceux qui.
Ah oui, non, on va faire exploser les compteurs.
Voilà, prennent vraiment du plaisir à faire la photo et surtout ont un budget conséquent. Les hybrides pro.
Alors ça, c'est le X Pro 2. C'est un Fuji. Premier à avoir un capteur avec une telle plage dynamique. Il a un autofocus. Fuji, c'est quoi ? C'est je prends une photo en JPEG, je l'envoie à un directeur de la rédaction photo.
C'est ce que tu nous disais tout à l'heure.
Il imprime JPEG, direct. La compression, c'est magnifique. Les optiques sont top. Voilà. Là, ils se sont bien améliorés en vidéo. Ils se sont bien améliorés en termes d'autofocus. Et puis, vous avez un choix parmi les plus belles optiques qui est sur le marché des hybrides. Un look rétro qui fait que ce n'est pas forcément l'appareil qu'on a envie de braquer. Quand on est un voleur, on préfère des gros réflexes bien ostentatoires. Et qualité d'image pure, quoi. Fuji, c'est la qualité d'image pure. Et c'est le côté reporter, quoi.
Et en tout cas, peut-être le meilleur dans cette catégorie, ou l'un des meilleurs dans cette catégorie, on revient à Sony.
Oui, alors Sony, là c'est moins. Alors, je vibre moins, parce que ce sont moins des appareils photo passion.
On a compris. Hein.
Alors sur ça, il n'y a rien à dire.
Tu reconnais la puissance et le savoir-faire, ouais. Mais.
Il manque deux, trois trucs. Voilà. Bon, par exemple, ce que je reproche aux nouvelles optiques de Sony, qui sont des optiques qui ils viennent taquiner les réflexes. Donc on va vraiment trouver des optiques qui sont massives. Bon, moi, ce que j'aimais bien dans les hybrides, c'est qu'ils étaient plutôt compacts. Par contre, Sony, c'est des capteurs plein format 24-36, avec des flous d'arrière-plan, alors à crever. Leurs dernières optiques sont de vraiment top qualité. Donc là, on retrouve vraiment un capteur professionnel. On a de la vidéo 4K de tenue professionnelle. Et puis, on a 42,5 mégapixels sur le capteur. Wow. Donc là, vous faites une bâche pour habiller l'hôtel de ville. Imaginez bien, il y a 5-6 ans, il fallait un appareil photo ou un dos numérique qui valait 20 ou 30 000 balles. Pour faire ce genre de tirage, il a 42 mégapixels. Je l'ai testé avec le dernier 85 et le dernier 24-70 G Master. C'est un monstre. C'est un monstre.
Le prix est monstrueux aussi.
Je ne sais plus. Alors, il faudrait, 2000 et des brouettes. 2000, d'accord. 2005. Ou peut-être qu'il monte à 3000 sur ceux-là. J'ai un petit trou là sur les prix. Effectivement, ce sont des appareils pro, semi-pro, en tout cas très passion. Mais ce sont des machines de guerre.
Tiens. C'est rigolo parce que tu parlais justement qu'avec la qualité de ce capteur et le nombre de pixels, on pouvait couvrir une bâche d'une cathédrale ou de ce qu'on veut, d'un immeuble. Mais comment fait Apple alors ? Parce que ça me vient à l'esprit, on voit souvent des bâches d'immeubles recouvertes de pubs d'iPhone, avec de photos prises avec l'iPhone. Comment ils font alors ? C'est de la supercherie cette histoire ?
Non, du tout. Du temps du magazine, il y avait des gens qu'on appelait les photograveurs, qui traitaient les fichiers numériques. Bien traités. Un fichier numérique, on peut le tirer très grand.
D'accord.
Je prends un exemple d'un photographe.
Parce que c'est quoi ? C'est du 12 mégas, l'iPhone 6S. Donc
Oui, eh bien, Éric Bouvet, un grand photographe français, grand photoreporteur que je connais bien, a fait des expositions avec de très grands tirages, 1m50 au Musée des Armées, sur ses photos sur l'Afghanistan. La photo, je lui dis, tu l'avais prise avec quoi ? Avec un appareil, il faisait 4 mégapixels. Les mégapixels ne sont pas égaux entre eux. Et puis, avec pas mal de traitement d'image, avec une bonne maîtrise de Photoshop.
D'accord.
Et puis, il faut admettre qu'il y a suffisamment de pixels pour faire de très beaux tirages. Après, il y a une différence entre un beau tirage et un tirage qui fait la différence. Souvent, ce qui fait la différence, c'est l'optique.
Merci beaucoup, Adrien. C'était super complet. Alors, c'est vrai qu'il y avait certains, on va dire, termes techniques. Mais voilà, hein, quand on veut rentrer dans les détails, forcément, quand on parle de photos et de passion, il faut aller dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, il y a évidemment énormément de comparatifs sur zeronet.com. Qu'Adrien vous propose avec les meilleurs appareils photo du moment dans plusieurs catégories.
Hein. On a même de la chance, et comme les appareils photo se font décimer par le bas, il ne reste plus que le haut, il ne reste plus que le bon, et c'est ce que je teste.
Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Adrien. De quoi je me mêle, la suite dans un instant. On va terminer avec Victor Jakimovic. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
De quoi je vois mal, la qualité des nouvelles techno, bien sûr, avec un Victor en pleine forme qu'il a. Bonjour Victor.
Salut, j'ai nagé.
J'ai nagé, nous dit Victor. Et forcément, quand Victor nage, il teste des produits high-tech. Et ça tombe bien parce que, à l'approche des grandes vacances là, et peut-être pour vous aussi de longues baignades, on vous le souhaite, eh bien on va parler de produits high-tech qui ont un rapport avec l'eau. Voilà, tout simplement, soit pour les protéger, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Et on va commencer par le Seawag.
Oui, le Seawag est un petit sac étanche, tout bêtement. C'est pas le premier, c'est sûrement pas le dernier.
On est d'accord.
Il est plutôt mieux fait que d'ordinaire en termes de qualité de la fermeture, puisqu'il est IPX8, c'est-à-dire 1 heure à 25 mètres. On peut mettre son smartphone dedans, quelle que soit la taille du
d'accord.
smartphone.
Ouais,
hein. Ouais. Mon iPhone 6 Plus rentre parfaitement bien. Bon, l'intérêt, c'est bien entendu la protection. Avant l'eau, je dirais le sable. Le sable, parce que le sable qui
clair.
Se fout dans les appareils techniques, c'est épouvantable. Donc, c'est le sable, la poussière, mais aussi l'eau. C'est livré avec un tour de cou pour éviter de le perdre si on va nager avec. Bon, il n'y a pas de sortie pour les écouteurs, il n'y a pas de machin. C'est vraiment pour trimballer son téléphone sur la
malgré
plage.
Malgré tout, on peut toujours utiliser l'écran tactile, hein, on le voit.
Et
hein.
on utilise parfaitement bien l'écran tactile. C'est made in France, c'est plutôt bien. Enfin non, c'est made in France. Le produit n'est pas made in France, mais c'est des Français
c'est
qui ont conçu le système de fermeture.
Ouais.
C'est bien, c'est pas cher, ça vaut 15 euros et ça se trouve partout. Seawag, c'est une très bonne solution.
Bon, l'avantage, enfin, l'avantage c'est que c'est étanche. Moi, l'inconvénient c'est que j'ai du mal à avoir confiance en ce genre de produit.
Mais c'est-à-dire de toute façon.
Je me dis, est-ce que je vais mettre mon smartphone, qui coûte quand même pas mal, là-dedans, est-ce que je peux avoir confiance en ce genre de truc ?
Moi, j'ai testé, mais ce qui est recommandé, avec tous les systèmes étanches, quel qu'en soit prix, y compris les coffrets professionnels, c'est toujours quand on met un appareil de vérifier qui audé tout de suite qu'il ne se passe rien. Pour ça, c'est simple, on met un bout de sopalin ou un truc de ce genre. En même temps que l'appareil, et dès qu'on voit, si on voit une trace d'humidité, on fait un essai, on le trempe. Si on voit une trace d'humidité,
d'accord.
on ressort le tout avant réellement de plonger, quoi.
Ok. Hein,
voilà de plonger ou de nager.
Le Seawag, ça coûte 15 euros.
Voilà.
On enchaîne avec un produit, on va dire, qui
toujours made in France.
C'est la même chose, hein.
Toujours made in France, sauf que là, c'est un vrai boîtier de protection téléphone, un vrai boîtier de protection téléphone made in France, là encore, près de Marseille, une petite société qui s'appelle Vantalis, V-A-N-T-A-L-I-S, qui fait plein d'accessoires, d'ailleurs, très spécialisés en accessoires pour la rando, la montagne. Je vous engage vivement à aller vous balader sur leur site. C'est plein de petits produits astucieux. Bon, moi, j'y ai trouvé donc ce dispositif qui est une vraie coque de protection avec un système de fermeture qui fonctionne réellement bien. Lui aussi est IPX8, donc...
Oui, c'est donc
efficace pour de la petite plongée, toujours à vérifier.
Ce qui n'est... Ça, on peut s'amuser et on peut faire de la plongée avec ce genre de truc, filmer dehors.
Enfin, ouais. Pas idiot, ils ont prévu sur leur boîtier un petit cadre qui permet de poser, d'utiliser le téléphone de façon un peu différente, enfin de le poser sur une surface. Bon, c'est très bien foutu, ça vaut 50 euros là où les boîtiers américains que l'on trouve surtout oui. valent plutôt 80 euros. Zéro ou d'euros, hein?
Ça, c'était le débat de la semaine dernière.
Ouais, bon. 80, allez.
Voilà.
On en parle.
Et là, donc on est moins cher finalement.
Et là, on est à 50 euros.
D'accord.
Le produit a été sélectionné entre autres par un magasin que j'aime beaucoup et à qui je fais tout à fait confiance quant à la qualité de ce qu'ils vendent, le vieux Campeur, pour ne pas le nommer, magasin bien connu sur Paris. Bon, ce qui est une référence, parce qu'ils choisissent pas n'importe quoi. Non, c'est bien foutu, c'est pas cher, et ça peut... D'accord. Donner des envies de photos sous-marines.
Bon, écoutez, on va quitter l'eau pour maintenant aller
non,
sur la terre.
Non, on reste sur l'eau.
Oh, pardon, excusez-moi.
On reste sur l'eau.
Qu'on allait parler d'autre chose.
On reste sur l'eau avec ce casque. Alors, c'est un parmi d'autres. Celui-là a le mérite de... Il vient de sortir. Il a pour particularité ce que l'on a au-dessus du casque proprement dit.
On dirait une petite sirène.
Hein, ouais, mais la petite sirène en question, elle sert bien entendu à mettre une fixation à la GoPro, qu'on pourra d'ailleurs serrer avec mon décapsuleur. Souvenez-vous de mon décapsuleur.
Oui, oui, je m'en souviens très bien.
Hein,
qui est dans la thématique, hein, puisque c'est un poisson. Donc,
ah bah, c'est un poisson pour
pas,
plonger,
il absolument. Il effraiera pas tous ses collègues qui
bon,
croisera.
Et on va pouvoir plonger avec un GoPro. C'est pas le seul, c'est pas le premier. Là non plus, c'est pas le dernier. Ça a le mérite de ne coûter que relativement bon marché, puisque cet Omenex Submerge, c'est son nom, vaut 30 euros et qu'on le trouve maintenant dans quasiment toutes les grandes surfaces.
Donc il n'y a pas beaucoup de technologie, il y a simplement une petite attache.
C'est un bon casque au demeurant avec peu de volume intérieur, ce qui est plutôt bien. D'accord. Il est pas mal designé.
Parfait. Alors là maintenant, ça y est, on quitte l'eau pour la terre ferme. Avec une pompe à vélo, les amis. Eh oui, qui aurait pu imaginer qu'un jour, dans De quoi je m'appelle, on allait parler d'une pompe à vélo.
Eh ouais.
Dans le micro, Victor.
Oui,
autrement,
il s'agit,
vous pas, vous le savez.
Il s'agit de Bimper, qui est là encore une société française. Aujourd'hui, j'ai soigné l'origine des produits. Bimper, ça existe dans différentes couleurs. Alors, ça se présente sous l'aspect d'une espèce de petite bouteille, avec un manomètre intégré. La petite bouteille en question, eh bien, elle permet de contenir 11 litres d'air comprimé. Donc, quand vous en avez marre, parce que quand vous arrivez, que tous les vélos sont à plat, un petit coup de bouteille, on appuie...
Au lieu de faire des pompes avec la pompe.
Au lieu de faire des pompes avec la pompe, on appuie sur le bouton et en 10 secondes, on a... on a...
On regonflait le pneu.
Regonflait complètement le pneu. Alors, on a de quoi, donc, en regonflait...
On dit ça, c'est quoi, en autonomie.
Regonflait un certain nombre.
Ça fait beaucoup.
Ça fait une bonne dizaine.
Je suis
dizaine,
pas spécialiste en litres de pneus.
Ça dépend de l'état dans lequel vous les trouvez. C'est un peu ça, le problème. Et alors, l'astuce de The Bimper, c'est que c'est votre vélo qui va le recharger.
Non.
Autrement dit, vous avez un petit accessoire qui se met sur la roue, avant, et qui vous permet de recharger ce Bimper, puisque en 6 minutes, à 15 km/h, vous avez de nouveau vos 11 litres sous pression à 50 bars.
C'est super, ça.
Hein ?
Mais c'est compliqué à installer ?
Ben non.
Quand même mettre des petits câbles un peu partout, j'ai l'impression.
Non, pas partout. Là, juste entre l'avant.
En tout cas, il faut que la pompe, quand elle se recharge, soit connectée via un petit tube.
Un petit tuyau. Faut bien que l'air passe.
On est d'accord.
Hein, mais c'est intelligent.
Ouais, donc c'est malin. Et puis c'est français, dites donc.
Une petite société de l'Hérault. C'est simplement un petit peu cher. Ça va être disponible fin juin. Ça va se trouver sur le site cpa-france.com dans un premier temps, avant de se retrouver ailleurs. Alors, c'est un peu techno, c'est un peu cher, mais quand on a plein de vélos et qu'on en a marre, c'est pas idiot.
Vous n'avez pas donné le prix, Victor ?
Ça se situe à un peu plus de 300 euros de mémoire, ce qui est un peu onéreux, effectivement.
Un prix qui ne manque pas d'air.
Mais ça ne manque pas d'air, non, effectivement.
Enfin, bon, on enchaîne, s'il vous plaît, parce que là, ça commence un peu à dégénérer.
Oui.
Et on va parler de WeSings avec la nouvelle balance WeSings. Vous savez que WeSings a été fraîchement racheté par Nokia. Voilà, c'était il y a quelques semaines pour 170 millions d'euros, je crois bien. Et donc, WeSings, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec Nokia, mais on imagine qu'ils vont continuer sur les objets connectés santé. Malgré tout, ils ont sorti une nouvelle balance qui est là.
Oui, bah, de toute façon, ils vont continuer sur les objets connectés santé, puisque en réalité, c'est Nokia a acheté un savoir-faire et que c'est l'un des deux cofondateurs de WeSings qui sera président de l'activité, donc bon.
Donc voilà.
Oui. Continuité.
On aura toujours le savoir-faire de WeSings.
Continuité assurée avec plus de moyens. Alors cette nouvelle.
C'est pas la première balance. Hein,
ah bah WeSings, non, hein. Bah non.
Ils ont commencé avec
non,
ça.
Non, ils sont leaders de la balance connectée.
Oui, oui, oui.
C'est quasiment eux qui l'ont pas inventé, mais presque. Peut-être inventé d'ailleurs.
Alors qu'est-ce qu'elle a de nouveau celle-là ?
Alors qu'est-ce qu'elle a de nouveau celle-là ? Celle-là, grâce à l'impédance métrie, vous fournit non seulement la masse grasse de votre corps, ce qui était déjà le cas avant, mais vous fournit également la masse hydrique, la masse musculaire, la masse osseuse. Donc vous pouvez tout connaître de votre savoir de sportif.
C'est incroyable en fait.
Je dis bien sportif parce que il est clair que si vous avez pris 2 kilos et que c'est 2 kilos de flotte, c'est pas comme si c'était 2 kilos de muscles.
Ça c'est sûr. Mais lui, il va nous le dire justement.
Mais justement, lui sera capable de vous le dire avec un niveau de précision relativement important.
Quand vous dites
ceci étant, c'est pas le premier non plus. Quand je dis relativement,
c'est que c'est pas hyper précis.
Ben, l'impédance métrie, quand on ne le fait que par les pieds, le courant électrique. Parce que l'impédance métrie, c'est la résistance. On mesure la résistance
oui,
du corps.
On fait passer une petite faible électrique.
Très faible courant. Mais le courant, grosso modo, il s'arrête au génitoire, pour parler poliment. Hein, il va pas plus haut, il prend le plus court chemin.
Qui s'arrête au niveau de la.
Au niveau des, oui, exactement.
Ah oui, et donc au-dessus, il y a.
Et il tient pas très compte de ce qui est au-dessus. C'est pour ça que quand on va dans des clubs de sport et qu'on a de l'impédance métrie, oui, on a en général des systèmes où on a des poignées.
Oui, oui, oui.
Hein, qui font en sorte que c'est le corps complet qui est traversé. Mais bon, ceci étant, c'est précis. Mais surtout, cette balance a fait un pas assez fantastique dans l'évolution, dans la mesure de la santé. Parce qu'on mesure avec cette balance le pouls, c'était déjà le cas de la précédente, mais on mesure un truc qui s'appelle la vitesse d'onde de pouls.
La vitesse d'onde de pouls.
Ouais. La vitesse d'onde de pouls, ça n'est pas la vitesse du sang qui a été éjecté
par
le cœur, c'est la façon dont tremblent et se déforment vos artères.
Par la pression du sang.
Sous la pression du sang. Et ça n'a rien à voir. Alors, en réalité, c'est une mesure de la qualité de vos artères, réellement, et c'est un indicateur de santé qui est, à la limite, presque plus important que la tension. Parce que avoir de la tension, c'est important, c'est clair. Mais si le tuyau est solide, bon, le
et
problème,
donc là,
c'est d'avoir.
Ça mesure quoi ? Ça mesure la qualité de nos artères et éventuellement si elles sont bouchées ou pas.
Bah voilà, enfin, les phénomènes liés à l'artérosclérose, voilà, par exemple, les graisses accumulées, etc.
Sûr, ouais,
ouais. Tout ça étant dramatique, ça permet de mesurer et on a un.
Alors, je devrais le problème, c'est qu'on a des artères partout dans le corps. Là,
comment oui,
va...
oui.
C'est une c'est
à travers l'impédance métrie, toujours.
D'accord.
Hein,
donc, c'est un chiffre global.
C'est un chiffre global qui est pondéré par votre âge,
d'accord,
votre taille. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte. Alors, bon, c'est une donnée à caractère réellement médical, en fait.
Oui, donc, là, on ne joue plus dans la cour du bien-être. Là, c'est une information quand même importante.
Bah oui, c'est un peu la. Alors c'est moi, je me pose un peu la question du à quoi ça sert. Alors ça a un évident rôle de lanceur d'alerte. J'ai une mauvaise situation cardiaque, oui, j'ai une mauvaise situation artérielle, ce que me dit ma balance.
Bah, je vais voir un cardiologue.
Je vais voir un cardiologue.
D'accord.
Ouais. Après ça, une fois que
on le sait,
qu'on le sait. Je suis pas sûr que ça serve tous les jours.
D'accord.
Mais, alors, ça va faire plaisir, à mon avis, aux cardiologues qui vont recevoir des clients en rap, probablement. Ça va faire plaisir aux hypochondriaques qui, eux, seront ravis de pouvoir justifier que hier, c'était mieux qu'aujourd'hui, et bon, etc., etc. Mais bon, c'est un super produit, réellement high-tech, mis au point avec les gens de l'hôpital...
Il vient d'un hôpital, donc oui, dire, ils sont quand même sérieux.
De l'hôpital Pompidou, voilà, Pompidou, les gens du service cardio de Pompidou, qui est réputé, ça a été testé. 180 euros.
Bon, on a quand même une balance.
C'est plus cher que la précédente.
On reste dans le cardiaque pour terminer, Victor.
On reste dans le cardiaque pour terminer avec ce petit objet.
Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Ce petit objet, c'est quelque chose qu'à la limite, vous pourriez coller derrière votre téléphone, mais vous n'avez pas besoin de le coller. Si vous le mettez à côté, il fera le boulot. Et son boulot, c'est quand vous le mettez deux doigts sur chaque paddle, il fait votre électrocardiogramme. Électrocardiogramme que vous pouvez récupérer sans problème
sur le smartphone.
Et que vous aurez intérêt à transmettre à votre toubib pour en avoir une analyse convenable, parce que tout le monde sait pas faire. Mais voilà, par exemple, un électrocardiogramme.
On le voit très bien. L'électrocardiogramme de Victor est bon.
On voit que le rythme sinusal est tout à fait.
Je m'adresse à tous les cardiologues qui regardent de quoi je me mêle. N'hésitez pas à m'envoyer un petit.
Voilà, j'ai relevé mon
message
rythme.
Personnel. Hein.
J'ai relevé mon rythme sinusal. Bon. Mais c'est des trucs à exploiter avec un cardio. Alors, il y a un truc marrant là-dessus, au demeurant, c'est que c'est livré avec un mode d'emploi bizarre qui dit que ça n'est pas fait pour les humains, mais pour les animaux.
Non.
Et que ça se destinait aux vétérinaires.
C'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que comme c'est un matériel médical et que la vente de matériel médical n'est pas autorisée pour les humains...
Donc ils disent que c'est pour les animaux alors que ça marche
alors,
pour les humains.
Alors imaginez-vous en train de mettre les pieds de votre vache préférée, les sabots de votre vache préférée là-dessus pour mesurer le pouls.
Mais même un chat.
Ou un chien.
Déjà pour mettre deux pattes sur d'un chat là-dessus, je vous dis pas. Déjà, on est complètement griffé.
Il faut le tenir, la pauvre bête. Il faut quand même 30 secondes pour que le relevé puisse s'effectuer.
En plus. Et puis en plus, ça a été fait pour les doigts. Enfin,
on
voit tout de suite que ça a été fait pour ça. Hein.
Ceci étant, c'est très précis.
Oui.
C'est aux États-Unis où c'est vendu depuis un certain temps et où en Angleterre, ça vous donne un vrai diagnostic, vous disant que le rythme est bon, pas bon, etc., etc. En France, c'est bien entendu totalement exclu.
Donc ça s'appelle Alive Core Cardia
Alive
avec
Core,
un K.
Le cardia,
et ça coûte 139 euros.
Et ça coûte 139 euros, c'est-à-dire moins cher qu'une visite chez le cardio, des fois.
Mais cela dit, il faut y aller de temps en temps, même si ça coûte un petit peu cher.
Surtout si ça vous dit, voilà, vas-y.
Vas-y, Coco. Victor, bon, on se retrouve très vite dans De Quoi Je Me Mêle. Et ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour tous ceux qui commencent déjà à les préparer. Et puis un bon week-end à tous les autres. À très vite, on sera là vendredi prochain.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net.tv.